Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Et comme toutes les semaines sur Divergence FM, nous recevons Françoise Verna pour nous parler des grands titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, qui paraît en kiosque ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno.
Quels sont les grands titres de cette nouvelle édition de la Marseillaise ?
Oui, alors, à l'occasion, donc, nous avons choisi d'inviter pour notre grand entretien hebdomadaire Marie-Christine Perel-Roisin, qui est la présidente de l'UNICEF de l'Hérault.
Oui.
Alors, pourquoi cette invitation ? Parce que l'Assemblée générale de l'UNICEF France va se tenir à Montpellier au Quorum du 16 au 18 juin.
Oui.
Et donc, il nous a semblé intéressant d'interroger Marie-Christine Perel-Roisin sur les actions de l'UNICEF en Occitanie, et singulièrement dans l'Hérault et aussi dans le Gard où il y a un comité. Donc elle évoque bien évidemment la guerre en Ukraine, les actions de l'UNICEF, comme je le disais, en Occitanie, et les attentes de l'UNICEF vis-à-vis des décideurs politiques, puisque nous sommes à la veille des élections législatives. Et c'est justement notre dossier de la semaine qui porte sur les enjeux des élections législatives. Donc le but, c'est d'élire les députés. Le premier tour se tient ce dimanche 12 juin. Oui. Nous proposons notamment une analyse circonscription par circonscription dans l'Hérault et dans le Gard des enjeux.
Mmh.
Et nous avons aussi une interview du politologue Michel Crespi. Bien évidemment, ça se déroule dans un contexte social assez bouillant, notamment du côté des hospitaliers.
Oui.
Donc, nous avons suivi les hospitaliers à Montpellier qui se sont mobilisés mardi 7 juin dans le cadre de la journée de grève et d'action. Alors, ils dénoncent l'état de l'hôpital public et exigent des moyens, des bons salaires. Il faut savoir qu'en moyenne, d'un point de vue national, hein, il y a entre 15 et 20% des lits qui sont fermés dans les hôpitaux par absence de personnel. On reste sur la politique, on revient sur la politique avec une mesure très positive et très forte. C'est à partir du 1er juillet, la métropole de Montpellier va expérimenter ce qu'on appelle l'encadrement des loyers. Alors c'est un acte important en termes de pouvoir d'achat et de régulation des prix du marché dans le privé qui sont en train de flamber. Et c'est de plus en plus difficile de se loger correctement dans la métropole de Montpellier et singulièrement aussi à Montpellier.
Oui.
Voilà, nous avons mis le focus sur cette mesure qui va rentrer donc en vigueur le 1er juillet. Alors nous restons aussi sur un sujet politique, mais on fait un saut dans le passé, puisque il y a la publication d'un ouvrage qui est écrit par Claude Pennetier. Alors Claude Pennetier, c'est le directeur de la publication du Métron. C'est ce dictionnaire biographique très passionnant du mouvement ouvrier. Le livre s'intitule « Réinventer la gauche en Languedoc-Roussillon » et porte sur la période 1945-1968. Et en culture, enfin, nous évoquons le festival Uzès Danse qui débute vendredi 10 juin jusqu'au 18 juin. Alors, il propose 15 spectacles, dont 10 créations, mais aussi des concerts, des films, des installations artistiques. Et donc, c'est proposé par des artistes qui viennent de 6 pays. Alors, on va les citer, l'Iran, le Liban, l'Espagne, l'Argentine, la Belgique et bien sûr la France. Voilà l'essentiel de notre sommaire à la une du vendredi 10 juin.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence avec l'Assemblée générale de l'UNICEF France.
Oui, alors tout à fait. Alors c'est une assemblée générale qui se tient tous les ans.
Oui.
Pour qu'elle se tienne uniquement sur Paris où il y a le siège de l'UNICEF France. Et ils ont choisi cette année Montpellier. Alors il faut rappeler que l'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfant, hein. Donc c'est toutes les actions qui sont faites au niveau international pour les enfants, et notamment les enfants les plus vulnérables.
Oui.
Et les enfants vulnérables, il y en a aussi dans notre pays, en France, et dans notre région, et dans notre ville, Montpellier. Donc nous avons interviewé Marie-Christine Perel-Roisin, qui préside l'UNICEF dans l'Hérault. Il faut savoir qu'il y a deux comités à Nîmes et à Montpellier qui sont des villes amies des enfants, c'est-à-dire que il y a des actions communes qui sont menées sur des thèmes très divers. Ça va de la lutte contre la pollution à l'accès à une nutrition de qualité. Il y a aussi la lutte contre les discriminations. Il y a beaucoup d'actions dans les écoles, nous explique la présidente de l'UNICEF France dans l'Hérault, parce que le fait de sensibiliser les enfants et les adolescents à leurs droits, ça permet aussi de les sensibiliser, de les faire agir ensuite en tant que citoyens.
Et oui.
Donc le changement climatique est un thème majeur. Il y a aussi la situation internationale, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui sont tournées pour récolter des dons pour les enfants ukrainiens.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose qui est mené par dans les établissements. Il y a les collectivités locales qui participent, il y a les établissements aussi du supérieur, hein, et puis il y a les écoles et les collèges et les lycées qui sont sensibilisés. Ils font énormément d'interventions, l'UNICEF, dans les établissements scolaires. Il y a aussi un thème qui est très délicat, mais c'est la prostitution des mineurs.
Mmh.
Et ça, l'UNICEF milite et va militer auprès du gouvernement et des responsables locaux pour que la protection des jeunes soit assurée. Donc ça passe aussi par des actions auprès des lycéens sur la notion de consentement. Et c'est vrai que derrière ce problème majeur, il y a des questions aussi de précarité, de dévalorisation de la personne, et c'est un âge où c'est très important d'être protégé et d'être informé. Donc on voit que l'action de l'UNICEF dans l'Hérault est extrêmement dense, et au niveau des élections législatives, milite beaucoup aussi pour que les politiques soient sensibles à la création d'un ministère de l'enfant.
D'accord.
Avec des compétences transversales.
D'accord.
Donc voilà, ils vont débattre de tout cela au cours de l'Assemblée générale, donc qui se tient au quorum. Et Montpellier, je pense qu'ils sont très contents d'aller à Montpellier parce qu'ils estiment, et d'ailleurs elle le dit, la présidente de l'UNICEF Hérault, que c'est une ville qui est dynamique. Et c'est aussi une façon pour eux, pour l'UNICEF de l'Hérault, de mettre en avant leurs activités locales. Voilà.
Allez, on passe aux enjeux des élections législatives dont le premier tour se tient ce dimanche.
Oui, tout à fait. Donc c'est un rendez-vous politique extrêmement important. Donc nous consacrons notre dossier avec plusieurs pages sur les enjeux de ces élections législatives. Donc
oui.
L'objectif, c'est d'élire les 577 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Donc il faut savoir que dans l'Hérault, il y a 9 circonscriptions et un total de 114 candidats.
C'est
qui
énorme.
Se présente. Et dans le Gard, il y a 6 circonscriptions, il y a 68 candidats. Donc, pour analyser notamment les enjeux de ce premier tour, nous avons interrogé le politologue Michel Crespi de l'Université de Montpellier. Alors, il nous indique qu'il y a énormément de candidats, bien sûr, mais il y a quand même une polarisation autour de 3 grands courants, on va dire, politiques. Bien évidemment, il y a la majorité sortante d'Emmanuel Macron, donc La République En Marche, aujourd'hui s'appelle Renaissance,
oui.
Donc les macronistes. On a le fait politique majeur, à notre avis, de cette élection, après la présidentielle, c'est la constitution de l'Union des Gauches avec la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale.
Oui.
Et puis on a le bloc d'extrême droite. Donc ça va se polariser autour de ces trois blocs. Il faut savoir que les élections législatives ont été le reflet des grands mouvements politiques de ces dernières années. Par exemple, en 2012, sur 49 députés en Occitanie, là je parle au niveau régional, il y en avait 31 qui étaient au Parti Socialiste, hein. Donc c'est l'année de l'élection, on se souvient, de François Hollande, donc oui. Il y avait évidemment une grande vague pour donner une majorité, et en 2017, il y avait 33 étaient La République En Marche. Mmh. Mais Michel Crespi nous dit que c'est compliqué, on n'est pas à l'abri de surprises. D'après son analyse, il envisage de nombreux duels entre La République En Marche, donc Renaissance, et l'Union des Gauches, notamment dans l'ex-Languedoc-Roussillon.
D'accord.
Bon, il faut savoir qu'il y aura énormément de duels, puisqu'on est sur un mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours, mais que pour pouvoir se maintenir au deuxième tour, il faut réunir 12,5% des inscrits. Mmh. Ce qui, au regard de la possible abstention qui aujourd'hui est évaluée entre 47 et 50%, nécessite de faire un très haut score. Donc on s'achemine vers des duels et ça va être passionnant. On analyse avec une cartographie. Les lecteurs vont pouvoir retrouver la totalité des candidats avec des cartes de l'Hérault et du Gard et des analyses circonscription par circonscription oui. des enjeux. D'accord. Voilà. Donc un dossier très complet.
Et on ne saurait que dire à nos auditeurs de se diriger vers les urnes ce
oui,
dimanche.
Oui, c'est un droit absolu, le droit de vote, et il faut voter, parce que si on ne vote pas, c'est les autres qui décident pour nous.
Absolument. La Marseillaise a suivi les hospitaliers ce mardi 7 juin lors de leur journée de mobilisation. Qu'est-ce que ça a donné ?
Alors, ça a donné en fait une colère, on va dire que c'est les blouses blanches qui ont une colère très rouge. Hein. Donc, nous avons suivi donc cette manifestation, ils ont manifesté à Montpellier, et donc nous avons interrogé, on a manifesté à leur côté pour recueillir leurs paroles. Alors, par exemple, Philippe Peretti, qui est le représentant de la CGT, un des représentants du syndicat CGT au CHU de Montpellier, dit qu'il faut des mesures d'urgence. Hein. Donc, ils ont regretté notamment de ne pas être reçus par le préfet, qui est le représentant de l'État. Hein.
Oui.
L'Agence régionale de la santé non plus ne les a pas rencontrés. Mais ils alertent alors sur le risque imminent, ils le disent, hein, de rupture d'accès aux soins cet été. Mmh. Donc en fait, on peut résumer l'état de l'hôpital public par un triptyque, moins de lits, moins de personnel, moins de soignants. Par exemple, ça tient encore aux urgences de Montpellier, mais on a des urgentistes qui sont épuisés par 2 ans de pandémie.
Et oui.
Il y a la grosse inconnue de la période estivale. On redoute des fermetures des urgences la nuit, notamment à Sète, à Agde, à Lunel. Alors, il faut savoir qu'on accueille énormément de touristes dans ces périodes. Il y a les soins pour les habitants qui vivent à l'année ici. Et puis, il y a toutes les personnes qui viennent passer leurs vacances et qui ont malheureusement parfois besoin de soins d'urgence. Mmh. Précisément, si on ne prend que le CHU de Montpellier, un lit sur 5 est fermé, d'après les chiffres de Philippe Peretti, et il manque 330 postes, enfin il y a 330 postes d'infirmiers et 170 postes d'aides-soignants qui ne sont pas pourvus.
C'est colossal.
Donc évidemment, la revendication au-delà du constat qui est dramatique, c'est ils réclament, comme ils font partie de la fonction publique hospitalière, hein,
oui.
Ils font partie des trois fonctions publiques, la fonction publique d'État, des collectivités locales et la fonction publique hospitalière. Le point d'indice qui détermine la hauteur de la rémunération est gelé depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, ils réclament un dégel conséquent de ce point d'indice, estimant que le Ségur de la santé qui s'est tenu pendant la pandémie est largement insuffisant. Le dégel de ce point d'indice permettra de mieux rémunérer les personnels existants et de recruter de manière conséquente.
Oui.
C'est le seul moyen pour que l'hôpital public puisse assurer l'ensemble de ses missions. Rappelons que l'hôpital public accueille tout le monde,
et oui, c'est
sans
ça.
Distinction. Voilà, donc c'est un point extrêmement important. Et je pense que ce n'est que le début de la mobilisation. Hein.
Oui, et puis bon, on peut dire que la sonnette d'alarme est tirée depuis des années par le personnel
Exactement.
Hospitalier. Et que,
oui.
et que malgré qu'on améliore les salaires, il va falloir former des gens et que ça ne se fait
tout
pas en 6 mois, tout ça.
Tout à fait, tout à fait.
Allez, on change de sujet, on passe à l'encadrement des loyers proposé par la mairie de Montpellier. Est-ce que c'est-à-dire que ça va ressembler un petit peu à l'encadrement des loyers qu'il y a à Paris ?
Oui, en fait, c'est dans le cadre de la loi Élan qui a été votée en 2018, les métropoles et les villes peuvent appliquer l'encadrement des loyers. Mmh. Alors pour Montpellier, évidemment, c'est une mesure politique qui est forte. Elle est, on peut la qualifier de sociale et d'intérêt général,
oui.
Puisque à partir du 1er juillet, pour tout nouveau bail, il y aura un encadrement des loyers. C'est ce qui se passe déjà à Paris. Il y a d'autres métropoles comme Lille, Lyon, Villeurbanne qui le pratiquent. Alors, on a interrogé Claudine Vassas-Mègerie, qui est la vice-présidente de la métropole. Une compétence métropolitaine. Hein.
Oui.
Elle est déléguée à l'habitat, puisque cela permet d'éviter le fléau des marchands de sommeil qui louent à des prix démesurés. Mais c'est aussi un levier qui permet de réguler le loyer dans le logement du parc locatif privé.
Oui.
Et pour le maire Michael Delafosse, qui s'exprime aussi dans nos colonnes, mettre en place l'encadrement des loyers, c'est agir pour le pouvoir d'achat des habitants de la métropole. Bon, il faut savoir qu'on est dans une ville, certes, une métropole très dynamique, mais le gros paradoxe, c'est qu'on a un fort taux de chômage. Il est de l'ordre de presque 10% à métropole égale, hein, on va dire que c'est très élevé. On a un taux de pauvreté, on l'oublie parfois, qui est de 19%. Donc il est au-dessus de 5 à 8 points de plus que par rapport à d'autres métropoles équivalentes.
Mmh.
Mais paradoxalement, les prix de vente de l'immobilier dans le neuf, par exemple, ont augmenté de 26% entre 2015 et 2021.
Mmh.
Et nous sommes en un an dans l'ancien à plus de 6,8%. C'est vrai qu'on se retrouve avec des loyers médians dans la métropole au-dessus de 11 euros le mètre carré, presque 13 euros le mètre carré.
Oui.
Et à Montpellier, ça peut monter pour des studios à plus de 17 euros le mètre carré.
Mmh.
Donc là, l'encadrement des loyers va permettre de limiter ces hausses. Ça ne pourra pas être au-delà de 20% du prix du marché.
D'accord.
Donc c'est une expérimentation, c'est important de le souligner et d'en informer évidemment les habitants de Montpellier et de sa métropole.
Allez, tout de suite, on reste sur un sujet politique avec un
oui.
ouvrage écrit par Claude Pennetier, « Réinventer la gauche en Languedoc-Roussillon ».
Oui, oui, oui. Alors en fait, il vient de paraître, cet ouvrage, il me semblait, il est passionnant. En fait, ils ont recensé les actes d'une rencontre universitaire qui s'était tenue à Béziers en 2011.
Oui.
Et ça vient de paraître. Alors, c'est toujours bien d'avoir ces recensions et ces synthèses de ces débats universitaires,
mm-hmm.
puisque ils se sont penchés sur cette période 1945-1968 de l'histoire de la gauche dans le Languedoc-Roussillon. Donc, on a plusieurs universitaires, notamment Hélène Chaubin, qui montre en quoi les guerres coloniales et la guerre froide ont eu raison de la 4e République.
Oui.
Donc, on se rappelle que la 5e République dans laquelle nous vivons encore et qui, donne le ton et régit nos institutions, est née d'une crise majeure, hein, qui était la guerre de l'Algérie française.
Oui.
Et il y avait des partisans de l'Algérie française, et puis avec une extrême droite extrêmement, violente, et le retour donc du général de Gaulle. Ça a été pour beaucoup de gens de gauche la période de l'engagement. Donc nous sommes vraiment au cœur d'un sujet historique avec des particularités locales, hein, puisque on voit qu'il y a la revendication occitane qui va rentrer dans le champ politique avec un choix de gauche assumé au début des années 60. Donc tout ça est extrêmement passionnant. Ça permet d'avoir un regard sur l'histoire de la gauche, mais vu d'ici, de chez nous. Et cet article, j'espère qu'il donnera envie aux lecteurs de se plonger dans cette histoire qui est assez constitutive de ce que est la gauche encore aujourd'hui.
L'ouvrage s'appelle « Réinventer la gauche en Languedoc-Roussillon ». Un petit
Tout
peu de culture
fait.
Maintenant, Françoise, avec oui. le festival Uzès Danse que l'on adore chez Divergence FM. Ça se tiendra du 10 au 18 juin prochain.
Oui, alors c'est vraiment un événement phare qui est organisé à Uzès, donc à partir de vendredi. Donc on a énormément de créations. C'est aussi, alors je le disais, il y a 15 spectacles, 10 créations. Il y a des artistes qui viennent de nombreux pays, l'Iran, le Liban, l'Argentine, l'Espagne, la Belgique, la France. Et c'est une édition qui rime aussi avec beaucoup d'émotions pour Lydiane Schoss. C'est la directrice du Centre de développement chorégraphique national oui. et du festival Uzès Danse qui va quitter ses fonctions après 16 ans d'activité. Et elle a fait grandir le festival et le projet. Et c'est un événement qui est profondément ancré désormais dans le territoire gardois. Oui. Donc il y a 21 événements. Donc il y a des installations, des films, des concerts, des spectacles. Donc je le disais, des créations. Et Lydiane Schoss nous explique qu'elle a souhaité que cette 27e édition soit joyeuse, chaleureuse, mais qui fasse aussi écho avec notre temps, avec les combats menés dans un contexte toujours très difficile et dans un monde toujours aussi complexe. C'est vrai que la culture, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour évoquer les bouleversements et les mots M-A-U-X de notre monde et de nos sociétés. Donc voilà, nous invitons, alors on donne quelques indications sur les spectacles qui sont en prise avec le monde, avec un premier week-end où il y aura énormément de chorégraphes. On pense à Boris Charmatz, mm-hmm. Anna Michard, Sylvain Huc. Voilà, donc ça se passe les 10, 11 et 12 juin. Il y aura le deuxième week-end le 16, 17, 18 juin. Donc on invite évidemment à aller découvrir les créations et Uzès qui devient la capitale de la danse pendant ces jours.
Merci Françoise. Tous ces titres et bien plus encore sont à retrouver à partir de vendredi en kiosque avec La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie. Puis nous, on se donne évidemment rendez-vous à partir de la semaine prochaine.
Avec grand plaisir, Bruno.
Merci
beaucoup.
Françoise. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?